premier constat. Bien les députés d'aujourd'hui seraient heureux d'avoir des salles aussi remplies que celles que je vois qu'on a aujourd'hui. Deuxième constat, aujourd'hui, ce ne sont plus les canuts qui sont révoltés, ce n'est pas le choléra, mais plutôt la grippe aviaire ou le chikungunya qui nous inquiète. Et pourtant, dans les deux cas, l'attraction continue de jouer et Fourier continue d'intéresser. Bonnet-Dulary était un député pas comme les autres. Et puisque nous sommes sur ces terres, puisque Jean-Adam a déjà évoqué sa mémoire, je voudrais me concentrer sur ce personnage, essayer de le comprendre, essayer aussi de réparer une injustice. Car le grand drame de Bonnet-Dulary, c'est qu'il y a à son propos ce que j'appellerais une mémoire dispersée. Dans la littérature fourriériste, ou Péri, Para, fourriériste, on voit ce nom, ce personnage, on reconnaît sa générosité, enfin, le mécène qui se présente, qui donne des moyens aux fourriéristes de tenter un essai, et puis éventuellement, bon, un personnage qui a le grand tort de ne pas suivre à la lettre les prescriptions du maître, et donc, évidemment, comme toute personne qui prend un peu l'initiative, qui se retrouve chargée, eh bien, de toutes les critiques, c'est de sa faute si ça n'a pas marché. Ça, c'est le fourriérisme, le mécène du fourriérisme et le mauvais gestionnaire, mauvais administrateur, mauvais organisateur. Si maintenant, mais on ne s'intéresse pas du tout aux députés, si maintenant vous êtes dans l'enceinte parlementaire, alors on ne verra que le parlementaire et l'aspect fourriériste des choses sera un tout petit peu mis de côté. J'en veux pour preuve ce qu'on appelle au Palais Bourbon le Robert Écouni, qui est le dictionnaire officiel des biographies de parlementaires. Je me suis reporté donc à l'article Bonnet-Dulary. Inutile de vous dire que c'est une notice biographique extrêmement brève qui lui est consacrée, même pas un quart de colonne. Les notices sont généralement beaucoup plus longues. Je ne vais pas vous la lire intégralement, mais il y a quand même quelques petites phrases absolument délicieuses si on lit entre les deux. Alors, il se consacra à la propagande des idées phalanstériennes, commandita les journaux fourriéristes, la réforme industrielle et la phalange, et versa même les fonds nécessaires à la construction d'un phalanstère d'essai à Condé-sur-Vec, Seine-et-Oise. Il ne réussit à créer sur ses propriétés qu'une ferme modèle. Tout est dans le même. Il versa même les fonds nécessaires. Député, bon, on peut mettre un petit peu la main à la poche pour un secours, pour une contribution, lorsqu'il y a une souscription qui est organisée. Mettre ses biens, sa fortune à la disposition d'une idée, à la disposition de son projet, ça paraît un tout petit peu suspect au rédacteur de cette notice. Et puis surtout, lorsque vous allez un petit peu plus loin, vous cherchez les traces de Bonnet-Dulary dans nos débats parlementaires, eh bien, vous n'entendez absolument jamais parler ni de Fourier ni de Condé-sur-Vec. Et en effet, l'erreur serait de croire que Bonnet-Dulary est un député fourriériste. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus intéressant. C'est un député qui a des opinions démocrates. Il n'est pas forcément républicain. Il n'est sans doute pas républicain. C'est un homme qui arrive. Donc, il est élu en 1831. Il est dans l'opposition, mais une opposition raisonnable et modérée à cette monarchie de Juillet, à laquelle il a tout de même une certaine reconnaissance parce qu'elle a élargi le sens. C'est un homme qui est donc une opposition modérée qui vise à pousser Louis-Philippe et à pousser la monarchie de Juillet à aller un petit peu plus loin dans le sens des réformes, qu'elles soient démocratiques ou sociales. Mais il n'est pas du tout fourriériste. Et ce que je voudrais voir avec vous, c'est dresser un petit peu le portrait de ce parlementaire. On pourrait résumer en deux temps une ambition au service de l'intérêt général, une conversion tournée vers un projet concret. Une ambition d'abord. Une ambition, elle est nette, cette ambition. D'abord, Bonnet-Dulary est un député relativement jeune. Il est élu à 39 ans, puisqu'il est né, vous l'avez dit, Jean, à Paris, en 1792. Au départ, il semble qu'il ait eu plutôt des ambitions littéraires. Il aurait écrit une pièce de théâtre qui n'a, semble-t-il, pas été jouée, La mort du connétable de Bourbon. Puis, on passe aux choses sérieuses, donc le bohème fait sa médecine. Il s'est établi à Étampes, et c'est à Étampes qu'il est élu donc député, je vous l'ai dit, le 5 juillet 1831. Nous sommes donc au suffrage censitaire, même si le sens a été élargi. Et donc, il est élu avec le score magnifique de 189 voix contre 103, sachant qu'il y a 328 électeurs, dont 300 seulement ont jugé bon de se rendre au bureau de vote. Une ambition aussi, et là elle est notable pour qui se penche un petit peu sur le fonctionnement de la vie parlementaire, c'est un député qui brûle d'agir. Et on s'en rend compte très simplement parce qu'il parle tout de suite. C'est très mal vu hein, dans le monde parlementaire, quand vous êtes nouvellement élu, en plus un peu jeune, de vous exprimer tout de suite. Et ce député qui est élu le 5 juillet est à la tribune dès le 12 août. Et le 12 août, il s'exprime même deux fois, faute de goût majeur. Par ailleurs, au total, il va s'exprimer sept fois, plus un discours non prononcé qui sera tout de même conservé. Donc on a sept discours oraux, plus un discours écrit en neuf mois. Ça fait de lui un député particulièrement actif, sachant que dans ces neuf mois, il y a en plus une intercession. Enfin, et là, son ambition, dans le sens noble du terme, transparaît, c'est un député qui ne s'exprime que sur des sujets élevés. Le 12 août, et puis le 15 août, bien tout bonnement, il présente des amendements à l'adresse au roi. Le roi fait un discours du trône annuellement, le roi des Français, bien sûr, et via la représentation nationale, la Chambre des députés rédige une adresse, et les députés peuvent amender cette adresse, ce long texte qui présente ce qu'on attend, si vous voulez, de l'exécutif. Et les amendements de Donnet Dullary ne sont pas anecdotiques. D'une part, alors, très classiquement, il s'exprime en faveur des capacités. Ce qu'on appelle les capacités, c'était donc ces gens instruits, mais qui n'étaient pas électeurs parce que le sens était trop élevé. Comment ouvrir un petit peu plus les institutions à cette classe moyenne, éclairée et peu riche, si vous voulez. Et puis, il s'exprime deux fois sur Alger, conquête récente, dont on ne sait pas encore trop ce qu'elle va devenir. Et notre modèle du Larry, très vite, prononce les mots de colon, de colonie, d'organisation, de mise en valeur. Il y a ce territoire qu'on vient de conquérir. Il est hors de question pour lui d'en rester à une simple opération militaire. Il faut qu'Alger rende, il faut qu'Alger devienne quelque chose. Et quand il dit Alger, c'est toute l'Algérie, bien sûr. Il faut que cette Algérie, eh bien, produise, qu'elle soit mise en valeur, qu'elle soit colonisée. Il s'exprime ensuite sur la rente, c'est-à-dire sur la dette publique, sur la politique fiscale du baron Louis, ce n'est pas rien. Et puis, il s'exprimera également, en particulier, sur les tarifs extérieurs, et en particulier les tarifs du blé. Donc, protectionnisme, libre-échange. Vous voyez qu'il ne s'intéresse pas aux sujets médiocres, il s'intéresse d'emblée aux sujets importants, et il les aborde d'ailleurs avec une nette tendance à l'abstraction, c'est-à-dire qu'on a généralement des propos plutôt transversaux, des analyses qu'aujourd'hui, nous qualifierions de macroéconomiques. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il n'évoque jamais Étampes, il n'évoque jamais Oudan, il n'évoque jamais la Seine-et-Oise. C'est assez peu courant pour être signalé. Un député a souvent tendance à tirer les grands sujets vers sa circonscription, son lieu d'élection. Ce n'est pas du tout le cas d'un modèle du Larry. Peut-être parce que, même dans cet aspect-là, c'est un homme qui vise l'intérêt général et pas simplement l'intérêt de son département. Alors, je vous ai dit que cet homme, cette ambition au service de l'intérêt général était familier des grands sujets. Ça veut dire aussi qu'on pourrait penser qu'il oublie sa profession de médecin. On ne le voit pas s'exprimer sur des questions sanitaires. En revanche, et c'est là que commence à nous intéresser, comme pré-fouriériste, c'est qu'il utilise volontiers dans des débats fiscaux, dans des débats politiques, le vocabulaire médical. Alger, avant la conquête, explique-t-il, c'est un foyer de peste. Et donc la conquête a guéri, si vous voulez. On a assaini ce foyer de peste. La conquête, d'ailleurs, va apporter l'hygiène. Il emploie ce terme-là. Quant aux classes laborieuses, il faut les soulager. Et vous voyez que le terme est à la fois médical et social. C'est-à-dire que, peut-être même à son insu, Baudet du Larry a une vision assez médicale, assez organique, du corps social, qui, de manière analogue au corps humain, est à la fois caractérisé par une certaine vitalité, une expansion naturelle, mais cette expansion peut être renforcée ou préservée par une intervention extérieure. Et cette vision organique, médicale du corps social, eh bien, elle s'explique aussi par le fait que vous chercheriez vainement dans les interventions de Baudet du Larry une quelconque transcendance. dans les discours de l'époque, on n'hésite pas à se placer sous les auspices de Dieu, à multiplier les citations bibliques, à se réclamer d'un message supérieur. Ce n'est pas du tout le cas de Bonnet du Larry qui, au maximum, invoque la moralité. Mais ce terme de moralité, il le définit lui-même, il l'explique lui-même immédiatement, à peine l'a-t-il invoqué, en expliquant que cette moralité est le fruit de l'éducation, et que cette éducation qui procure la moralité, elle a un but visé qui est toujours terrestre. Et le maître mot de Bonnet du Larry, ça revient vraiment très très souvent dans ses discours, c'est sans doute le mot chargé de sens le plus fréquent, c'est celui de l'utilité. Pour lui, est moral, est intéressant ce qui est utile. Ce qui est utile à la collectivité, ce qui est utile à l'humanité. Alors, comme c'est un homme qui a visiblement lu les théoriciens libéraux, il sait que, ma foi, parfois, la poursuite égoïste d'un intérêt peut avoir des effets qui soient utiles à la collectivité. Et ça apparaît, par exemple, la colonisation d'Algérie. Il y a une conquête militaire, mais on va aller plus loin. Si jamais on ne met pas en valeur l'Algérie, il faut l'abandonner. Les Anglais s'en empareront. Alors évidemment, notre patriotisme devra en souffrir, mais on sait que les Anglais, en poursuivant une politique égoïste de colonisation, eh bien, mettront en valeur cette Algérie et seront utiles à l'humanité. Il le dit, c'est imprimé dans le Moniteur. De même, le commerce international. Bonnet du Larry est un libre-échangiste, vous parliez, Jean, du prix du pain, lui est pour le libre-échange, et non seulement le libre-échange est intéressant pour abaisser le prix du pain, mais il est intéressant parce que il est facteur de paix. N'attendons pas d'être en paix pour commercer, c'est au contraire le commerce, la poursuite d'intérêts commerciaux fractionnés, qui, par l'échange, va apporter la paix à l'humanité, la paix aux nations. De même sur la rente, il fait la différence entre des rentiers qui poursuivent un objectif qui est d'avoir leur rente pour vivre, et qui l'oppose, parce qu'ils sont utiles, ces rentiers, finalement, ils financent l'État, d'une certaine manière, et qui l'oppose à ce que nous appellerions aujourd'hui des spéculateurs, qui, par contre, cherchent un rendement rapide et sans se préoccuper des conséquences sur le corps social. Et c'est là, dans cette distinction entre les rentiers et les spéculateurs, que Bonnet du Larry se distingue en même temps des théories littérales, en expliquant que, bien sûr, parfois la poursuite d'un intérêt égoïste sert l'intérêt général, mais parfois il y a des intérêts particuliers si puissants, par exemple des gros producteurs de blé peuvent être tentés d'affamer le peuple, et donc il y a chez lui en même temps un appel à la cohérence des mesures prises et un appel à l'organisation, l'utilité et l'organisation. Le progrès, selon Bonnet du Larry, car il emploie le mot progrès également, il fait partie de son vocabulaire, on pourrait expliquer comme l'ensemble des mesures utiles qui mènent à la prospérité générale, et cette prospérité générale, on pourrait l'appeler le bonheur. Autre terme assez typique de Bonnet du Larry. Donc son problème, à ce jeune député de Seine-et-Oise, c'est comment concilier la diversité et la spontanéité de l'initiative avec la nécessité d'une organisation. Et c'est la doctrine de Fourier qui va lui permettre de combiner, de concilier ces deux exigences. Mais ce qui est remarquable, c'est que ça ne va pas se faire immédiatement. Et je ne résiste pas à vous citer la conclusion de son premier discours. Donc nous sommes le 12 août 1831. Il a plaidé pour les capacités. Il élargit sa conclusion, sa péroraison à l'ensemble des Français, donc aux classes populaires. Et il déclare à ses collègues dans l'hémicycle... ce n'est pas l'hémicycle que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il est en réfection, c'est dans une salle qu'on appellera la salle de bois, puisque l'hémicycle que nous connaissons aujourd'hui ne date que de 1832, donc nous sommes en période de travaux au Palais Bourbon, ça a lieu dans l'enceinte parlementaire et dans une autre salle, et il déclare à ses collègues, « Quant au pauvre peuple, tout le monde réclame pour lui l'instruction primaire, mais cette instruction primaire bornée à la lecture et à l'écriture est tout à fait insuffisante. Il faut le mettre à même de vivre honnêtement, facilement, par un travail utile à tous. Il faut surtout former sa moralité, lui démontrer que tout travail honnête est honorable, que dans toute profession, le bonheur peut se trouver. Cette éducation détruira l'envie, l'avidité, le mécontentement qui tourmentent les classes pauvres, et ces classes pauvres les rendent trop facilement dupes des factieux et des utopistes. » C'est-à-dire, quand j'ai vu ce texte imprimé dans le Moniteur, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Bonnet du Larry, le 12 août 1831, on a vraiment l'impression qu'il cherche à conjurer le sort. Il met dans le même panier les factieux et les utopistes, c'est presque le même terme, c'est-à-dire que ces utopistes, ces théoriciens de l'utopie, sont dangereux pour la société. Et il faut soulager les classes laborieuses pour éviter qu'elles suivent ces personnages dangereux. Et en janvier 1832, dans un autre discours, il emploie le mot utopie de façon extrêmement péjorative, là aussi au sens de chimère, hein, pour dénigrer un certain nombre de théories financières. Alors comment se produit cette conversion? Cet homme qui finalement tend vers le fourriérisme, tout en, au départ, se défiant de ce qu'on peut appeler l'utopie et les utopismes. Cette conversion, il y a trois facteurs. D'abord, une déception parlementaire. Une déception de parlementaire parce que, bon, là encore, il faut lire entre les lignes, mais enfin, c'est pas très compliqué. Dès son troisième discours, Bonnet du Larry a été repéré par ses collègues comme un personnage un peu bavard et un petit peu éloigné de leurs préoccupations. Et alors, ça se manifeste comment? Eh bien, dès qu'il prend la parole, on a des petits mouvements de séance, du style au voix, la clôture. Bon, il doit batailler même pour pouvoir poursuivre son discours. Dans son discours sur la rente, on a une interruption très nette d'un orateur important, Charles de Lamettre, qui déclare « Il est impossible que la Chambre écoute un orateur qui, sur un amendement, apporte un in-folio. » Ce qui veut dire d'abord qu'il n'était pas un improvisateur, c'est un homme qui venait avec des papiers. Et puis, effectivement, son discours sur la rente est particulièrement touffu, assez long, pas le meilleur modèle de Larry. Et donc, au Parlement, on se lasse assez vite de cet orateur abstrait, disert, peu concret. Et puis, déception de parlementaire, parce que ces prises de parole visent la plupart du temps à défendre des amendements, et non seulement tous les amendements Bonnet du Larry ont été repoussés, mais le dernier même n'a été soutenu par personne, ce qui fait qu'on n'a même pas jugé bon de mettre aux voix. Donc, imaginez ce député très actif dans les 9 premiers mois de mandat, c'est quand même des humiliations, des déconvenues. Ce qui veut dire que ce député très actif dans les 9 premiers mois va rester totalement muet dans les 15 mois qui suivent. Et son mandat se découpe vraiment en deux parties très très longues. Le deuxième facteur, mais Jonathan Mitchell pourra nous renseigner beaucoup mieux que moi, c'est la rencontre avec le jeune considérant. Je ne citerai qu'une lettre de considérant à Fourier du 6 octobre 1831. Je vais entreprendre. Voyez le caractère intentionnel. Je vais entreprendre la conquête d'un homme qui est déjà bien préparé et pourra donner le branle à une compagnie d'actionnaires. Et j'aime beaucoup cette expression, il est déjà bien préparé. Effectivement, un certain nombre d'idées qui sont dans l'air du temps qu'il a fait ciel le prédisposent, mais il n'a pas encore basculé, si vous voulez, dans le temps. Et puis alors, il se produit un événement historique qui précipite cette conversion. Le dernier discours de Bonnet du Larry, c'est le 30 mars 1832. Et alors c'est magique, là aussi, parce que ça coïncide exactement avec l'épidémie de choléra. Les premiers cas à Paris sont signalés le 22 mars. Et à partir du moment où l'épidémie de choléra est identifiée et se répand, eh bien c'est le médecin qui l'emporte sur le député, d'autant que c'est un médecin philanthrope. À Paris d'abord, puis à Étampes, quand Étampes est touché, Bonnet du Larry est auprès des malades. Et là, il est auprès des malades, pas seulement dans son cabinet, mais il va sur place, il va les rencontrer. Et dans la description du phalanstère de considérant, il y a une très longue citation de Bonnet du Larry que considérant met en avant à l'intention des bourgeois. « Riches qui aimaient la vie », explique Bonnet du Larry, « j'ai vu ». Alors là, je vous fais grâce du bateau romantique de l'expression, mais qui recouvre une réalité, c'est que ce Bonnet du Larry est allé dans les tanières, il a été époustouflé par la pauvreté, la misère qu'il observe, et évidemment cette expérience accélère sa conversion, et il insiste sur la solidarité du riche et du pauvre devant la maladie. Donc là, les préoccupations hygiéniques, les préoccupations sociales, tout ça se rejoint. Alors, il se tourne vers un projet concret. Je ne ferai pas l'historique de la colonie, ça a déjà été fait, très bien fait. Vous savez ce qui s'est produit, vous savez comment Donnez du Larry met à disposition ce dont il dispose ici avec Devet. Vous voyez, Jean, que nos esprits se rencontrent, puisque j'avais prévu également de citer cette conclusion par Donnez du Larry sur ce petit bienfait à l'humanité qu'a apporté ce défrichement. On retrouve là encore cette idée d'utilité qui est au centre de tout. Alors, Donnez du Larry, ça c'est remarquable, c'est un homme qui ne va pas être aigri par ce fiasco, ne va pas être aigri par cet échec. Il reste dans le monde feuilleriste, il va commanditer des journaux, il va tenir la librairie sociétaire. Il se réfugie dans l'écriture, en diversifiant d'ailleurs ses thèmes, puisqu'il va, vous épargnez également sa bibliographie, mais on va avoir aussi bien de l'hygiène populaire, de la physiognomonie, un ouvrage des rêveries d'un vieux médecin de campagne, et même des considérations sur le transformisme en essayant d'expliquer l'évolution des espèces par la métempsychose. Donc vous voyez qu'on revient sur de grands sujets. Comment juger Donnez du Larry? Je ne sais pas s'il faut le juger, je ne sais pas si nous sommes habilités à le faire. Charles Pellerin a eu une expression assez juste que je voudrais vous livrer en guise de conclusion. Pellerin expliquait que Donnez du Larry, très critiqué comme organisateur, néanmoins avait fait preuve d'une loyauté devenue assez rare dans les entreprises industrielles de notre temps, mais encore d'une générosité à peu près sans exemple. C'est grâce à cette générosité que nous nous trouvons ici aujourd'hui, 175 ans plus tard, et donc je vous invite à saluer la mémoire de Donnez du Larry. Merci beaucoup.